Seconde partie. Le temps s'était brouillé pendant la nuit. Un vaste dôme de nuages, gris sur gris, s'étendait d'un horizon à l'autre. Le lointain était voilé, les sapins noirs avaient un air lugubre, tandis que les prairies éclataient d'un vert cru, avivées par la pluie. « Est-ce que tu ne remettras pas ta course un autre jour ?» demanda Madeleine à son fils, qui déjeunait, déjà chaussé de ses lourds souliers à clous, et tout prêt à partir. « Le chemin sera mauvais au fond de la combette. » « Cela ne me fait rien, au contraire, puisqu'on dit que la pluie est de bon augure pour les entreprises. Le père a-t-il de l'ouvrage à renvoyer ?»« Oui, un carton à M. Moller. Il a travaillé hier d'arrache-pied, comme ça lui arrive dans ses bonnes quintes. Je souhaite bien que ça dure. »« Mère, dit Luc tendrement, quand je gagnerai de l'argent, tu te reposeras. »« Je ne me reconnaîtrai pas, dit-elle avec un sourire. » Lyon était décidément mieux. Une mouche indiscrète étant venue se poser sur son museau, il fit un mouvement pour l'attraper et la manqua, ce dont il sembla très honteux. « Ah, farceur !» s'écria Luc en prenant la grosse tête du chien entre ses mains. « Nous recommençons déjà nos tours, c'est bon signe. Maman, tâche que le père ne s'approche pas trop de Lyon en mon absence, ça l'irrite et pourrait lui donner de la fièvre. » « Allons, il est temps que je parte. » Et serrant dans une courroie une haute pile de carton bleu qui contenait les pièces prêtes pour le fabricant, il prit son chapeau de feutre mou et sortit. Comme il gravissait déjà le sentier, regrettant Lyon qui l'accompagnait dans toutes ses courses précédentes et l'amusait par ses folles gambades, il entendit un pas pressé derrière lui. C'était Claire, chaussée de pantoufles, qui accourait sur la pointe du pied et relevait d'une main son jupon au milieu de l'herbe mouillée. « Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?» demanda Luc en tâtant ses poches. « Oui, ceci. Tiens, tu le remettras à son adresse. » Elle lui plaça dans la main un petit paquet, puis tourna sur ses talons et s'enfuit comme une chevrette effarouchée. Luc, un peu étonné, reprit sa marche, mais avant de glisser le paquet dans sa poche, il voulut en lire la suscription. « Monsieur Luc Offrant. Rien de plus. Pour moi, qu'est-ce que cela signifie ?» Il défit le cordon, écarta l'enveloppe et aperçut une jolie bourse cramoisie dont le contenu se trahit par un léger tintement. Les quatre pièces d'or étaient accompagnées d'un petit bout de papier qui portait ces mots « Pour toi, tu me les rendras quand tu seras riche. » « Chère petite Claire, murmura Luc, moitié souriant, moitié attendri. Son cœur vaut mieux que son orthographe. J'accepte la bourse qui me portera bonheur, j'espère. Quant à l'argent, je le lui rendrai. Ce serait un péché que de tondre ainsi ce pauvre petit agneau. Mais voyez donc la capricieuse. Elle se dépouille pour moi. Et cependant, elle me refuse le seul mot qui pourrait me donner du courage. Mais du moins, elle a promis de m'attendre. Dans 3 ans, j'aurai une position faite. Dans 4 ou 5 ans, mes économies me permettront de me marier. Nous prendrons un joli petit appartement dans le voisinage de mon bureau, ou de mon atelier, ou de mon comptoir. Je préférerais un bureau, mais je ne serai pas difficile, et d'ailleurs, je n'ai pas de spécialité puisque je ne sais rien de rien. C'est un avantage à ce point de vue, on n'est pas lié par ses antécédents. Et dire qu'aujourd'hui, 1er juin, je vais poser la première pierre de ma fortune. Les commencements seront rudes, sans doute, je n'ai jamais eu de maître et j'ai la parole vive quelquefois. Mais j'avalerai ma langue, voilà tout. Je suis décidé à être un employé modèle. Au bout de la première année, je demande une augmentation d'appointement. « Supposons qu'on me l'accorde, voilà mes affaires en bon chemin. Je fais une invention, pourquoi pas? Le patron me l'achète, ou bien nous l'exploitons ensemble. C'est la fortune. Voyons un peu, quelle invention pourrais-je bien faire ?» Après y avoir rêvé, Luc se décida à ne pas fixer la chose dans le détail. Peu importait du reste, maintenant qu'il était bien résolu à faire une invention. « Je réparerai la vieille maison, » se dit-il, quand les capitaux commencèrent à se trouver à l'étroit dans sa caisse. « Ma femme y passera l'été avec les enfants, moi je serai retenu en ville par mes affaires, mais j'irai les voir le samedi et passer le dimanche avec eux. Nous aurons une petite voiture, quelque chose de modeste, un seul cheval, nous ne fringuerons pas. Je déteste les parvenus et Claire n'aimerait pas le grand genre. Elle apprendra l'orthographe pour me faire plaisir. Elle est bien plus jolie que Mademoiselle Moller, mais je crains que ses mains ne deviennent jamais aussi blanches. On doit avoir des pâtes ou des savons pour cela, je m'informerai. » Tandis que l'imagination de Luc battait ainsi la campagne, chaussé de bottes de 7 lieues, ses jambes faisaient aussi leur devoir. Il avait laissé la grande route pour prendre en droiture à travers la forêt, par des sentiers mal frayés que tout autre œil aurait eu peine à reconnaître. La pluie avait cessé, le ciel était d'un gris moins morne. On entendait le bruit doux des gouttes d'eau qui roulaient de feuille en feuille, et quand un coup de vent passait dans la ramée, toutes les branches secouaient des perles. Les fougères lavées dressaient leurs panaches d'un vert éclatant. La mousse qui couvrait de ses larges plaques les racines tortueuses avait des reflets de velours humide. Sur les troncs à l'écorce craquelée, les petits escargots qui aiment bien la pluie collaient leurs coquilles blanches striées de brun. Luc aspirait la fraîche senteur du feuillage mouillé. Il se sentait si plein de jeunesse, de force et d'énergie, qu'il eût voulu parcourir un sentier plus escarpé, plus difficile, se moquer des obstacles et leur crier « Vous ne m'arrêterez pas !» Ce fut dans cette humeur exubérante qu'il atteignit la ville. Avant d'y entrer, il essuya ses bottes dans l'herbe, secoua son chapeau, dont les larges bords retenaient la pluie, se rafistola de son mieux et prit un air grave. Après avoir traversé plusieurs rues, il arriva à celle qu'habitait M. Moller et qu'il connaissait bien pour y être venu déjà plusieurs fois. Il gravit le perron d'une belle maison en pierre de taille qui portait une gigantesque enseigne en lettres d'or sur fond noir « Dorval Moller ». Achat et vente de montres, fourniture d'horlogerie. Un grand balcon, supporté par des cariatides aux figures grimaçantes, ornait le premier étage. Au rez-de-chaussée, les fenêtres, très rapprochées les unes des autres, étaient tendues jusqu'à mi-hauteur d'un canevas, derrière lequel on distinguait confusément des ouvriers penchés sur leur travail. Luc entra dans un grand corridor frais, dont les murailles en stuc jouaient le marbre. Il ouvrit une porte à boutons de cristal, en poussa une autre capitonnée de serge verte, et se trouva dans une vaste pièce, très vivement éclairée, coupée en deux par des grillages, comme un parloir de couvent. L'espace laissé au public en général était fort restreint. Tout le reste était occupé par de lourds comptoirs, encombrés de cartons bleus et de paquets, par des pupitres, des layettes et des rayons. Devant chaque fenêtre se trouvait un établi où deux ouvriers, le dos tourné à la porte, travaillaient côte à côte, assis sur leurs chaises à vis. Les tours bourdonnaient, les limes grinçaient, on entendait le claquement des pédales et le bruit strident des boîtes à ficelles en forme de gros glands, fixés au plafond, qui viraient chaque fois que l'on tirait leurs cordons rouges ou bleus. Deux commis, debout en face l'un de l'autre, à un pupitre double, se dictaient des chiffres à demi-voix et feuilletaient les pages de registres formidables. Un visiteur, orné d'une redingote brune, pour marquer son grade qu'il élevait au-dessus de la blouse, examinait, le microscope à l'œil, le contenu des cartons amoncelés devant lui sur le comptoir. Luc s'approcha d'un guichet pratiqué dans le grillage et attendit. Personne ne sembla s'apercevoir de sa présence. Il examina les lieux avec plus d'intérêt qu'il ne l'avait fait précédemment, admira la peinture claire et brillante des boiseries, donna quelques minutes au casier à correspondance, compta les boîtes à ficelles et finit par s'impatienter. Il se mit à battre du tambour avec ses doigts sur le rebord du guichet, discrètement d'abord, puis d'une façon toujours plus accélérée, à mesure que le rouge lui montait au visage. Les deux commis interrompirent un instant leurs additions et se regardèrent avec un sourire qui exaspéra Luc. Le visiteur lui jeta un coup d'œil courroucé, mais ne bougea pas, semblant résolu à terminer le dénombrement de ses boîtes avant de passer à une autre affaire. Au milieu de la paroi se dressait un grand régulateur que Luc avait déjà regardé plusieurs fois. « J'attends encore 5 minutes, ça fera 1 quart d'heure, » pensa-t-il. « Et alors, je lui dirai son affaire à cette vieille redingote qui me fait poser. » Il s'accouda tranquillement, suivit des yeux l'aiguille sur le cadran, et quand le délai fut expiré, il se redressa tout d'un coup. « Monsieur, » dit-il une voix éclatante qui fit tressaillir les deux commis, et à laquelle tous les ouvriers se retournèrent, comme si l'on se fût mis à sonner de la trompette derrière le grillage. « Monsieur, mon temps est aussi précieux que le vôtre, et je ne veux pas en perdre davantage. » Reprenant sous son bras la pile de cartons qu'il avait déposée au guichet, il se dirigea vers la porte. « Saperlotte, vous êtes vif, jeune homme !» dit le visiteur en se levant. « Vous ne l'êtes guère, vous, ma parole !» Les deux commis se penchèrent davantage sur leur registre en se tortillant la moustache pour dissimuler une forte envie de rire. « c'est bon, passez-moi votre ouvrage. Il fallait dire que vous étiez pressé. Il nous faut de la patience à nous aussi, parbleu. Voilà des échappements que votre père aurait dû nous envoyer il y a 15 jours. Donnez-moi votre carnet qu'on vous les marque. C'est en règle, on ne vous retient plus. » Mais Luc ne bougeait pas. « Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Je voudrais parler en particulier à M. Moller. »« Ah bah, rien que ça ! Et qu'est-ce que vous lui voulez ? Je vous dis que je désire lui parler en particulier. » « Monsieur Moller est très occupé, » répondit le visiteur de son ton le plus officiel. « Il ne souffre pas qu'on le dérange. Repassez une autre fois. »« Quand, s'il vous plaît ?» demanda Luc poliment. « Eh bien, revenez la semaine des 3 jeudis. » Là-dessus, il lui tourna le dos et Luc sortit. Fort désappointé, le jeune homme traversa lentement le corridor. Il lui en coûtait de quitter cette maison sans avoir plaidé sa cause devant le patron. Il s'arrêta, s'adossant à la muraille polie où des colonnettes façon porphyre encadraient des panneaux de marbre hyperboliques, et il se mit à réfléchir tout en se morigénant d'importance. « Faute d'avoir su me taire, j'ai perdu ma première chance. Parler de temps précieux. Ah bien oui, moi qui n'ai rien à faire. Il faut quelquefois perdre du temps pour en gagner. Je forcerais bien la consigne si je savais seulement par où l'on entre chez le patron. Son cabinet s'ouvre sur le comptoir, mais il doit y avoir une autre porte. » Comme il méditait ainsi, tête baissée, un léger frôlement se fit entendre non loin de lui. Il leva les yeux et aperçut dans le clair-obscur de l'escalier une jeune fille qui descendait légèrement les marches. C'était Mademoiselle Moller, en toilette de promenade, serrée dans une jaquette collante qui dessinait sa taille irréprochable et boutonnant à la hâte ses longs gants de Suède. Ses cheveux blonds, qu'un petit chapeau de ville cachait fort peu, s'en mêlaient sur le front dans un désordre fort artistique. Elle fredonnait en balançant du bout des doigts un petit panier. Luc la salua. Elle le reconnut aussitôt. « Voudriez-vous, mademoiselle, m'indiquer par où l'on va chez M. Moller ? » dit-il, son chapeau à la main. « Voilà la porte du comptoir, » répondit-elle en faisant un mouvement pour passer outre. « J'en viens, mais c'est M. Moller que je voudrais voir en particulier. »« Vraiment ?» Pauline le considéra une minute, puis frappa légèrement du bout de son ombrelle la pointe de sa fine bottine et sourit. Luc se sentit rougir car elle avait jeté un coup d'œil sur ses gros souliers chargés de terre grasse et brune où quelques brins de mousse étaient restés collés. « Mon père est très occupé, » dit Pauline sans détourner les yeux des souliers de Luc, comme s'il la fascinait. « Est-ce une affaire pressante ?»« Oui, je voulais demander de l'emploi à M. Moller. »« Venez, » fit-elle après une seconde de réflexion. Passant devant lui, elle ouvrit une porte et entra dans le bureau de son père. Une haute fenêtre, derrière laquelle se balançaient les grands arbres du jardin, éclairait cette petite pièce meublée avec un luxe cossu où dominaient les tons graves. Le cuir brun des fauteuils, l'acajou du grand pupitre, le bronze des écritoires et des lampes harmonisaient leurs teintes avec l'air de solennité générale répandue en ce lieu. On y traitait de grosses affaires, cela se sentait. Les rideaux de reps aux plis lourds faisaient de l'embrasure une retraite mystérieuse à souhait pour un tête-à-tête de banquier. Les casiers étaient bourrés de liasses. Dans une armoire vitrée, toute une collection de vieux registres à dos verts indiquait l'ancienneté de la maison. d'énormes volumes de correspondances s'empilaient autour de la presse à copier qui semblait les regarder avec orgueil comme pour dire « Voilà mon œuvre !» Le courrier du matin n'était pas encore dépouillé et attendait sur un guéridon le bon plaisir du chef. Les affaires passées, présentes ou futures, envahissaient chaque coin. Il y avait dans l'air comme une poussière de chiffres. « Papa, dit Pauline, voici le jeune homme de l'autre jour qui a quelque chose à vous demander. » Et elle se laissa tomber sur une chaise basse avec ce mouvement ondoyant et ce froufrou d'étoffe qui avait déjà étonné Luc. Elle voulait assister à l'entretien, ça l'amuserait sans doute. M. Moller posa lentement son journal, puis se tourna avec majesté vers Luc. « Voyons, voyons, avancez, jeune homme, » dit-il de sa grosse voix. Luc se tenait près de la porte, craignant de laisser l'empreinte de ses semelles ferrées sur le joli parquet brillant. Mais il n'avait rien de gauche, et c'était précisément cet air de fière aisance qui intriguait Pauline. « Monsieur, dit-il en s'approchant du pupitre, le conseil que vous m'avez donné avant-hier ne m'est pas sorti de l'esprit. »« Bien, bien, fit M. Moller en se caressant le menton. Ce début lui plaisait, quoiqu'il n'eût pas le moindre souvenir d'avoir donné un conseil à Luc. « J'étais malheureux, faute d'occupation suivie, reprit le jeune homme, et j'ai obtenu de mon père la permission de venir chercher de la besogne ici. Peut-être en auriez-vous à me donner ?» C'est pour cela que j'ai pris la liberté de demander à vous voir. Hum, fit M. Moller en mordant sa grosse moustache rude comme une brosse de chien-dent. Je ne demande pas mieux que de vous aider, mon garçon, mais auparavant, quelques renseignements me sont indispensables. Votre âge? 19 ans, tantôt 20. M. Moller prit une note comme un juge d'instruction. Sa théorie était qu'il faut se défier de tout inconnu, qu'on rencontre beaucoup de menteurs, lesquels, heureusement, sont fort sujets à se couper, et que, pour les confondre, il n'est rien de tel qu'un document écrit. La prudence exigeait donc qu'il prît une note. Il reprit « Votre nom ?»« Luc Offrand. » »« Vous n'avez jamais subi ni prison préventive, ni condamnation ?» Luc bondit. « Monsieur !» s'écria-t-il d'un ton indigné. Bien, je vous crois, fit M. Moller en agitant la main. Que savez-vous faire? Rien. Pauline sourit. Décidément, ce jeune homme avait de l'imprévu. Je veux dire, rien de spécial, reprit Luc. Naturellement, je sais lire et écrire comme tout le monde. Oh, comme tout le monde, il y a bien des façons de lire et surtout d'écrire. Voyons la vôtre. Luc prit la plume qui lui était tendue et écrivit quelques lignes sous la dictée de M. Moller. « Bon, dit celui-ci en parcourant la feuille, votre main est ferme, votre orthographe correcte. Je pourrai vous employer aux expéditions. » Les yeux de Luc rayonnèrent. « Oh, vous serez simplement un balleur en sous-ordre. Ce sont ordinairement des gamins de 13 à 14 ans que j'occupe dans ce département, non pas de grands gaillards comme vous. » « Si vous acceptez, il faudra vous contenter d'appointements fort modestes. »« De quoi vivre, pourtant ?» demanda Luc, un peu inquiet. « Oui, si vous ne mettez pas la poule au pot tous les jours. Je donne 40 francs par mois aux jeunes subordonnés que je viens de mentionner. Vous en aurez 60 en raison de votre bonne écriture. »« 60 francs par mois ?» Dans son ignorance, Luc s'imagina qu'on lui offrait une fortune. « J'accepte avec beaucoup de reconnaissance, monsieur, » dit-il d'une voix qui tremblait. M. Moller se mit à rire. « La vie est chère, ne vous faites pas d'illusions. Vous aurez peut-être de la peine à joindre les deux bouts. Mais je vous donnerai des chances d'avancement si votre conduite me satisfait. » En même temps, il frappa sur un timbre. « Envoyez-moi M. Dalphon, » dit-il au jeune garçon en tablier de serge bleu qui parut pour prendre ses ordres. « Je désire vous présenter à l'expéditionnaire en chef, » poursuivit le patron. « Vous lui marquerez toujours beaucoup de déférence, car je tiens avant tout à l'observation de la hiérarchie et à la subordination. » Il accentua distinctement chaque syllabe de cette phrase, ce qui lui prit un temps considérable. Il finissait à peine quand la porte s'ouvrit et l'expéditionnaire en chef parut. À sa vue, Lugh ne put réprimer un sourire que, par bonheur, son futur supérieur dans la hiérarchie de l'emballage ne remarqua pas, étant excessivement myope. Il avait les yeux d'un bleu très clair et légèrement proéminent. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un rouge invraisemblable que nous ne saurions décrire autrement qu'en lui donnant le nom de nuance écureuil. La nature avait ajouté à cette infortune un teint blême, des cils blonds, sous lesquels glissait ce regard flottant et indécis que donne la myopie, une tournure maladroite et toute la gaucherie d'une laideur qui a conscience d'elle-même. « Monsieur Dalphon, approchez, je vous prie, » dit M. Molaire. « Voici un jeune homme que je désire placer sous vos ordres. » M. Dalphon cligna des yeux, les ferma à demi, inspecta l'horizon et finit par découvrir Lugh, qu'il sembla considérer comme une cime très éloignée. « Faites-le marcher droit, » poursuivit le patron. « Vous pourrez l'employer à écrire des adresses et des suscriptions de paquets. Il en est capable. » L'expéditionnaire inclina la tête et se rapprocha de la porte. « Vous êtes pressé, monsieur Dalphon. Je ne vous retiendrai pas davantage. » Là-dessus, l'expéditionnaire se retira sans avoir prononcé un seul mot au cours de l'entrevue. « C'est un homme de peu de paroles, » dit M. Molaire en se tournant vers Lugh. « Il est assez original, mais je n'ai pas de meilleur employé. Il ne commet jamais ni erreur ni oubli. Vous serez à bonne école avec lui. Pour peu que vous montriez d'aptitude, il vous enseignera à tenir les livres de commission. Son nom est Dalphon Renaud. Je ne souffre pas qu'on le molesse, soit au sujet de sa figure peu classique. « Monsieur, dit Lugh, cette recommandation est superflue. » Mais M. Molaire n'entendait pas qu'on lui coupât ses périodes. « Je poursuis, dit-il en fixant un regard sévère sur l'interrupteur. « Soit au sujet des petites bizarreries de son caractère que vous ne tarderez pas à découvrir si vous avez l'esprit aussi prompt que la langue. Quand entrerez-vous en fonction ?»« Aussitôt qu'il vous plaira, monsieur. Demain ?» « Fort bien, nous signerons le marché au bout de la première semaine. » Ce fut comme en rêve que Lugh remercia, salua et sortit. « Il nage dans le bleu, » fit Mademoiselle Pauline avec un sourire en regardant le jeune homme s'éloigner. « Pour 60 francs par mois, faut-il qu'il soit jeune? Vous le ferez monter en grade, papa? Il faudra voir. Savez-vous qu'il ne manque pas de distinction? Il a des gestes de grand seigneur. » « Voilà ce que j'appelle une absurdité au premier chef, Pauline !» interrompit son père d'un air mécontent. « En pays démocratique, il n'y a pas de grand seigneur, et ceux qui en prennent le ton pourraient bien recevoir sur le nez, mademoiselle. Il n'y a chez nous que des fils de leurs œuvres. J'en suis un, moi qui te parle, l'artisan de ma propre fortune. »« Je le sais, oh, je le sais !» fit Pauline. « Vous me l'avez déjà dit, petit père !» Elle se releva. « Vous nous prêterez de temps à autre ce garçon-là pour nos commissions, à maman et à moi, n'est-ce pas ? L'apprenti, le... Comment appelez-vous ça en style d'atelier ?»« Le subordonné, » suggéra son père, qui affectionnait ce vocable. « Mais non, le pommeau, voilà, le pommeau que vous nous envoyez chaque matin est un grand niais qui fait ses messages tout de travers. Donnez sa charge à Lugh Offrant, ça le formera. » « Adieu, petit père, je vais au marché vous acheter les premières cerises. » Elle brandit son mignon panier, se pencha vers son père pour lui effleurer l'oreille d'un baiser et s'en alla. Lugh ne se rappela jamais comment il avait regagné la maison ce jour-là. Son imagination galopait dans les espaces, tandis que ses jambes se tiraient des fondrières comme elles pouvaient. Ses espérances les plus ambitieuses étaient justifiées. Ces châteaux en Espagne avaient pour base les fondements mêmes de la maison Molaire. 60 francs par mois sonnaient déjà dans sa caisse. Il ne s'agissait plus maintenant que de faire cette invention qui rendrait le nom de Lugh Offrant à jamais célèbre parmi les emballeurs des deux mondes. Porterait-elle sur les clous la caisse ou le marteau ? Lugh se promit d'étudier soigneusement tous les procédés en vogue, mais il était sûr à l'avance de les trouver terriblement défectueux. « Je ne serai pas un routinier, moi, » se disait-il. « Notre expéditionnaire en chef n'a pas l'air d'avoir inventé la poudre, pauvre garçon. Je lui soufflerai des idées. »« Dalphon, Comment peut-on s'appeler Dalphon ? Mon nom, à moi, n'est pas commun non plus, mais c'est un autre genre. Luc, Luc, Dalphon, et ses cheveux phosphorescents, quelle affliction ! En même temps, il soulevait son chapeau et passait la main dans sa chevelure brune bien plantée. Il trouvait le monde admirablement organisé, chacun s'y casait selon ses mérites. Du plus loin qu'on le vit venir, Madeleine et Claire accoururent à sa rencontre. « Eh bien » s'écrièrent-elles à la fois. « Eh bien, j'ai trouvé mon affaire et, du premier coup, M. Moller m'engage comme emballeur à 60 francs par mois. » « Tant que ça !» fit Claire. « Innocent que vous êtes !» dit Madeleine avec un soupir. « La vie est chère en ville. »« Voyons, maman, ne jette pas du noir sur le sujet. M. Moller est un homme juste. Il me paiera mon travail ce qu'il vaut. On m'a promis de l'avancement. J'y entre demain. Hourra ! Fais-moi vite mon paquet !» Ils entrèrent ensemble dans la cuisine et Luc, pressé de raconter tous les détails de son heureuse expédition, approcha du foyer 3 tabourets. C'était sa place de prédilection pour les causeries. En été, quand le feu était éteint, il y faisait frais, car l'air y tombait en grande bouffée par la haute cheminée conique. « Où est le père ? » demanda Luc. « Il est sorti. » C'était la réponse prévue, le refrain journalier. « Quand je serai riche, dit Luc, j'achèterai des forêts et je l'en ferai nommer inspecteur. Ça lui irait comme un gant, n'est-ce pas, mère ? Pour commencer, vous saurez que sans Mademoiselle Moller, je n'aurais pas vu le patron. On n'obtient pas facilement l'entrée de son bureau particulier. » « Mademoiselle Moller, fit Claire en ouvrant de grands yeux, comment la connais-tu ? » Il fallut lui raconter l'histoire de la première rencontre. « Tu vois qu'elle n'a pas eu ton muguet malgré tout, » dit Luc en prenant la main de sa cousine. « Toutefois, elle ne m'en a pas gardé rancune. »« Est-elle jolie ? » demanda Claire, qui rougit prodigieusement après avoir fait cette question. « Jolie ? Non. Elle a grand air et elle est furieusement élégante, pour autant que j'en puis juger. »« Ce qui est sûr, » dit Madeleine, « c'est qu'elle t'a rendu service. » »« Continue, Luc. » « Dis-moi si tu comptes prendre une chambre en ville ou revenir à la maison chaque soir. » Le jeune homme réfléchit un instant. « Monsieur Moller n'a pas encore fixé mes heures de travail, » répondit-il. « Mais je crains qu'une course de 2 lieues soir et matin ne te fatigue trop. » « La fatigue, je m'en moque. Seulement, vois-tu, mère, j'ai l'intention de faire du zèle, de dépasser mes heures sans regarder au tarif. » Dans les jours de presse, si je restais à la besogne jusqu'à 10 heures du soir, par exemple, je ne serais pas ici avant minuit. Peut-être aussi qu'en ma qualité de dernier venu, j'aurais à balayer l'atelier ou le bureau le matin et à commencer la journée de très bonne heure. Tout cela est vrai, dit Madeleine en soupirant. Allons, je vois que tu as ouvert tes ailes pour de bon. Envole-toi puisqu'il le faut, mais choisis bien ton nouveau colombier. « Demain, tu prendras des informations. Fais tes comptes de très près, mon garçon. 60 francs seront vite fondus. Quand tu seras à court, ajouta-t-elle à voix basse, dis-moi un mot, j'ai une petite réserve pour toi. Maintenant, mon fils, je vais te donner à dîner. Ensuite, je passerai en revue tes bas et tes chemises. » Tout le reste du jour, Luc ne put tenir en place. Il allait et venait agité, bouleversant les piles de linge que sa mère triait soigneusement, il furetait dans les tiroirs et emballait les objets les plus hétéroclites, tandis que sa mère essayait doucement de lui faire comprendre qu'un lézard empaillé, une collection de cailloux curieux et 4 d'alouettes n'étaient pas des objets absolument indispensables à sa réussite dans le monde. Luc était encore bien enfant, il eût voulu emporter tous les souvenirs de ses gamineries d'autrefois. À chaque instant, il courait à la cuisine pour caresser Lion, qui, déjà, faisait effort pour se traîner après son maître. « Fais-lui quelques gâteries quand je serai parti, » dit-il à Claire. « Je lui manquerai plus qu'à toi, sûrement. »« Méchant !» dit-elle en lui tournant le dos. Mais il avait vu briller une larme dans ses yeux. « Pardon, ma petite Claire, ma petite fiancée, » ajouta-t-il à voix basse. Mais elle secoua la tête. « Pas encore, dit-elle. Quand ils furent seuls, il voulut lui faire reprendre son trésor. Elle n'y consentit pas. « Que veux-tu que je fasse de cet argent ? » plaida-t-elle, comme si elle sollicitait une faveur. « Je n'ai besoin de rien, ta mère me donne tout ce qu'il me faut. » « Mais cette montre que tu désires depuis si longtemps. » « À quoi me servirait-elle ? Les heures me dureront en ton absence, elles seront trop courtes quand tu reviendras, voilà mon cadran à moi. » Il insista, elle fit mine de se fâcher et remit finalement la bourse cramoisie et son contenu dans la poche de Luc. Cette journée parut longue au jeune homme. Trois fois, il crut que la pendule s'était arrêtée. Son père était rentré à la Brune, il lui raconta le prompt succès de ses démarches, puis monta se coucher pour faire passer le temps plus vite. Mais il dormit à peine. La fièvre des entreprises le tint éveillé jusqu'à l'aube. Enfin, il tomba dans un assoupissement dont il s'éveilla par un grand soubresaut, rêvant que M. Moller entrait en personne pour secouer son employé trop tardif. Il était 4 heures. Luc s'habilla à la hâte, descendit sans bruit et laissa sur la table de la cuisine un billet au crayon qui disait « Au revoir, attendez-moi samedi. Maman embrasse Claire de ma part. » La petite malle contenant ses effets devait être amenée en ville par un laitier du voisinage dont le char ne partait que plus tard. Libre de tout bagage, Luc se mit en route d'un pas alerte. La délicieuse fraîcheur du matin dissipa bientôt quelques restes de fièvre. L'esprit léger, le cœur joyeux, Luc se met à chanter à pleine voix un vieux psaume que sa mère affectionnait et qu'il avait appris sur ses genoux. On a beau se lever matin, si l'Éternel n'y met la main, on ne peut que bâtir en vain. Et ses pensées montèrent plus haut que les rêves ambitieux, plus haut que les fiévreuses espérances. Comme il sortait du bois où les grives s'éveillaient et n'était plus qu'à une demi-heure de la ville, il avisa une petite ferme dont l'étable était toute grande ouverte. « Je demanderai là une tasse de chaud lait, pensa-t-il, ce sera mon déjeuner. » Il s'approcha et, tournant l'angle de la maison, découvrit un spectacle qui lui causa une vive surprise. Deux ou trois chèvres blanches et noires étaient groupées devant une femme occupée à les traire. Celle-ci remplissait de lait écumeux un grand bol qu'elle tendit à un enfant debout à côté d'elle, tandis que trois autres bambins attendaient leur tour avec impatience. Adossés à la muraille, l'air radieux et les mains dans les poches, Dalphon Renaud contemplait ce petit monde avec une satisfaction infinie. Il leva la tête en apercevant Luc, mais ne le reconnut que lorsque celui-ci s'avança pour le saluer. « Le patron a négligé de vous dire mon nom hier. » « Je m'appelle Luc Offrand. Vous faites donc des promenades matinales, monsieur Renaud ?»« Oui, pour le bien de ces pauvres petits anges, » dit la femme aux chèvres en s'interrompant une minute. « Ce n'est pas lui qui vous le dira, mais demandez un peu au maire de ses petits. » Dalphon Renaud tourna brusquement sur ses talons et s'éloigna sous prétexte de couper une baguette pour un garçonnet qui s'attachait à ses pas. « Puisque vous le connaissez, je peux bien vous le dire, » reprit la laitière en le suivant des yeux. « Il n'y a pas de meilleur homme sous la voûte des cieux. Ces deux petits, voyez, c'est les enfants de sa bourgeoise. Ils ont eu la coqueluche tout l'hiver et rien pour les remonter. On n'est pas cousu d'or, vous savez. Au premier beau jour, ils me les amènent et me demandent de les prendre en pension pour un mois, histoire de changer d'air. » Il vient les voir chaque matin pour les empêcher de se sentir seuls, les pauvres bijoux, et il prend avec lui deux autres mioches de la maison à qui une bonne tasse de lait de chèvre met du baume sur l'estomac. C'est lui qui paie, ça va sans dire, chaque samedi, aussi régulier que le soleil. On n'en fait pas beaucoup sur ce modèle, croyez-moi, monsieur. » Luc regarda les enfants dont les petites figures pâles lui firent pitié. L'un buvait avec ardeur, enfonçant son minois tout entier dans le bol, tandis que l'autre, une fillette, poursuivait du doigt au fond de sa tasse quelques flocons d'écume que sa bouche n'avait pu atteindre et jetait en même temps vers l'étranger des regards futés de petites citadines. « Dis donc, » fit Luc, quand le nez du bambin émergea des profondeurs où il avait disparu. « Sais-tu le nom de cette bonne biquette qui te donne à déjeuner ?» « Elle s'appelle Rosa Perrin, comme sa maman. » C'est moi qui suis la mère aux chèvres, dit la laitière en riant quand elle vit l'air étonné de Luc. Eh bien, dit le jeune homme en s'asseyant sur la margelle de la fontaine rustique où les sœurs de Rosa venaient boire, moi, quand j'étais petit, j'avais une chèvre qui s'appelait Cabriole. C'est un joli nom, n'est-ce pas ? Les deux enfants, pressentant une histoire, s'approchèrent de lui tout doucement en se donnant la main, tandis que la laitière remplissait un bol pour son nouveau client. Quand M. Dalphon revint, Luc, un marmot sur chaque genou, était en pleine narration et son auditoire riait aux éclats des fredaines de Cabriole. « Partons-nous ? » demanda Luc en se levant. « Il ne faut pas que je m'oublie. »« Vous aimez les enfants ? » dit l'expéditionnaire. Luc entendait pour la première fois cette voix qui frappa fort agréablement son oreille. C'était un timbre grave, un peu triste, et qui, au lieu de sonner dans tout son plein, était voilé et retenu par une sorte de timidité. « Si j'aime les enfants, je n'en sais rien, les ayant trop peu pratiqués. Mais ceux-ci sont gentils, n'est-ce pas ?» Luc avala sa tasse de lait, tendit deux sous à la maman des demoiselles Perrin et tira de son gousset une grosse montre d'argent que son père lui avait donnée un jour dans un accès de munificence. « Déjà 6h30 !» s'écria-t-il. N'osant presser M. Dalphon, il se disposait à partir seul, bien à regret. « Attendez-moi, » dit son chef après une minute d'hésitation, « si toutefois la compagnie de ces deux petits ne vous ennuie pas. »